Alors la trouvaille de la semaine sur le net, eh bien c'est ceci. On commence, je pense que vous allez reconnaître la voix, c'est Monsieur Georges-Louis Boucher.
Tu veux que je t'explique les impôts ?
Avec 10 potes, vous louez une maison de vacances 1000 balles pour la semaine. Chacun d'entre vous, vous allez payer 100 euros. Mais si parmi tes 10 potes, il y en a 5 qui disent « moi je paye pas », les 5 autres vont payer 200 euros. C'est pour ça que si tu veux que les gens payent moins d'impôts, il faut que plus de gens travaillent.
C'est efficace, hein ? Moi, c'est Nabil. Je suis chercheur en économie et dans cette vidéo, on va voir qui contribue réellement le moins aux impôts. Partons de la métaphore des 10 potes en vacances. Elle est super. Imaginons que les 10 sont représentatifs de la population d'un pays comme la Belgique. Gardons aussi le fait que les 10 personnes doivent trouver 1000 euros et que ces 1000 euros sont dans la vraie vie les impôts et cotisations que l'État doit collecter sur ces personnes. Le réflexe premier, c'est de penser « Ok, chacun paye la même chose ». Mais financer un État, c'est pas exactement compléter un tricot entre potes. C'est très différent. Les 10 personnes ont des écarts très importants de revenus. Donc, ce qu'on peut taxer, ce qu'on appelle la base imposable, a aussi des écarts très importants. Prenons les véritables bases imposables de chacune de ces personnes en Belgique. On remarque que les deux premiers n'ont même pas les 100 euros. Mais est-ce que c'est parce qu'on a peu de revenus, par exemple si on a des allocations de chômage ou une petite pension, que ça veut dire qu'on ne paye aucun impôt et que tout retombe automatiquement sur les autres? Non, parce que en plus des prélèvements sur les revenus du travail et les revenus du capital, on a également des impôts sur la consommation, genre la TVA. Un exemple, tu achètes une bouteille d'eau, tu payes 6% de taxes. Et si chacun ne paye pas ses 100 euros, concrètement, ça donne quoi alors? On voit d'abord que tout le monde contribue, du plus pauvre au plus riche. Personne paye zéro impôt. Ensuite, on voit le concept de progressivité de l'impôt. Plus on est capable de contribuer, plus la base taxable est grande, plus on contribue en pourcentage de ses revenus. Mais est-ce que c'est le cas pour tout le monde? Eh bien non. La personne la plus pauvre, elle contribue proportionnellement plus que celles qui sont plus riches qu'elle. Parce que le revenu des plus pauvres part en général quasi intégralement dans la consommation. Et le poids de la TVA pèse alors très lourd. Mais la personne la plus riche ici, de la bande, elle contribue également moins que celles qui sont plus pauvres qu'elle. Ici en plus, on a pris un exemple avec 10 personnes. Mais si on passe à 100 personnes qui sont représentatives de la Belgique, la plus riche d'entre elles, elle ne contribue qu'à hauteur de 23%. Pourquoi est-ce que c'est le cas? Parce que parmi les plus riches, on tire ses revenus essentiellement et en majorité du capital. Des placements boursiers par exemple. Et ces revenus, pour les plus riches, contrairement au travail et à la consommation, sont peu ou mal taxés. Alors oui, si plus de gens travaillent, cela pourrait permettre de diminuer les taux d'imposition ou encore d'envisager plus de services publics et de redistribution. Mais il est complètement faux de dire que les pauvres ne contribuent pas à l'effort collectif. Alors qu'on l'a vu, ceux qui cotisent proportionnellement le moins, ce sont les plus riches.
Micro ouvert.
Bon, c'est vrai. Thierry Muller, ici devant moi, mon micro n'est pas discret. Et il rigolait de ça. Mais c'est vrai, il n'est pas discret. Mais il est bien. Niveau sonore, il est bien.
Alors c'est bien. On va faire avec.
Bon ben, enchanté Thierry Muller. Moi, je pense qu'on ne s'est jamais vu. Mais si, il y a longtemps maintenant, je m'en souviens. C'était avec... mais je ne sais plus où exactement. Bernard Friot. Mmh. Était venu à un endroit, est-ce que c'est Liège, pour parler de... comment ça s'appelle encore ?
Du salaire à vie.
Ouais. Ça aussi, toute une histoire.
C'est le cœur de... c'est la base même du livre dont on va sans doute parler, donc pour une réduction collective du temps d'emploi. Ça part vraiment des théories de Bernard Friot.
Oh ouais, mais Bernard Friot, c'est... Il faut... Moi, j'ai écouté plusieurs fois, c'est pas facile à comprendre... C'est pas facile à comprendre. Attends, parce que j'entends mon casque. Non, de toute façon, ça marche. C'est une histoire de casque. Oh, 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 oh. Donc, Thierry, j'avais envie de te rencontrer parce que tu as posté sur le réseau la couverture de ce livre pour une réduction collective du temps d'emploi. Signé lariposte.cte. Ça veut dire quoi encore, CTE ?
Chômeur travailleur engagé.
Voilà. En plus, c'est noté, gratté là en dessous. C'est vraiment. Et donc, je me suis dit, oh, mais trop chouette. Et en plus, tu rajoutais, ça aussi, je trouve c'est important de le dire, que Bon, je le dis avec mes mots, mais c'était ça l'idée que tu disais. On va voir si je me trompe pas. C'était, comme il y a un nouveau gouvernement là qui est occupé à se former, ben ça va être chaud les nouvelles mesures sociales dans le futur, quoi. Et entre autres, évidemment, le chômage. Et donc je me suis dit, oh, trop chouette, je rencontre Thierry Muller. En plus, je pense qu'il est militant. T'es militant, toi, hein?
Oui, c'est un terme que j'adore pas, mais disons que je m'engage dans des luttes par rapport aux situations que je trouve injustes, qui m'atteignent, qui me touchent dans mon quotidien, et que je suis quelqu'un qui a toujours eu du mal à accepter qu'on lui impose des choses qu'il ne trouve pas, dont il ne trouve pas d'explication légitime, logique. Voilà. Donc ça me révolte, quoi, hein, des choses que je subis. Et donc j'ai toujours fait ça depuis 40 ans, je sais pas, ma maman est sans doute responsable.
Non, mais j'avais envie de comprendre, parce que pourquoi il y en a qui deviennent militants, pourquoi il y en a jamais, pourquoi, enfin tu vois, comment, ouais. C'est quoi ton parcours par rapport à ça, en...
ouais. Mais j'ai fait un très beau spectacle qui raconte tout ça, qui s'appelle Les gens de peu, et qui est justement ça. Donc c'est tout ce parcours d'engagement que je raconte, avec ses hauts et ses bas, avec ses découragements, avec ses enthousiasmes, et notamment où je questionne justement ça, c'est-à-dire, ça me vient un peu d'où, cette histoire. Et le lien que je fais, il est très évident pour moi, c'est par rapport à ma mère, qui a mené au quotidien une lutte féministe. Alors que ma maman n'était pas une théoricienne du féminisme, elle lisait beaucoup des livres féministes de l'époque, comme Benoît de Groult, comme Simone de Beauvoir et bien d'autres. Et elle m'a proposé de les lire. Parce que voilà, je voyais la relation qu'elle vivait avec mon père et comment elle essayait de se sortir de cette situation oppressante, notamment le combat qu'elle a mené pour pouvoir avoir accès à un travail. Question très amusante, parce que moi j'ai mené un combat pour sortir du travail au sens de l'emploi, et voilà, on va sans doute développer tout ça, mais... Et d'ailleurs, ma maman m'a questionné un jour là-dessus en me disant, tu sais, moi, je me suis battu contre ton père pour pouvoir travailler, et toi, tu te bats parce que tu ne veux pas travailler. Alors, bon, j'ai dit, maman, c'est pas que je ne veux pas travailler, mais je ne veux pas travailler pour quelqu'un qui m'exploite.
Et vous avez réussi à vous entendre?
Ben oui, avec ma maman, on avait beaucoup de discussions sur le monde, sur la vie, sur le quotidien, sur mes révoltes, qu'elle ne comprenait pas toujours, qu'elle trouvait que j'étais excessif, et patati patata. Mais moi, je lui reconnais de m'avoir ouvert les yeux sur ce qu'on peut appeler des injustices sociales. C'est-à-dire qu'on est dans un monde qui est construit autour d'inégalités, de rapports de domination, d'oppression, et dans lesquels des gens peuvent se battre comme elle se battait, elle, à son niveau, à elle, quotidien. Elle n'était pas dans un groupement féministe ou quoi. Et elle m'a expliqué, essayé de me faire comprendre ça à travers des lectures qu'elle m'a donné. Et donc, mes premières luttes, ça a été des luttes féministes, parce que mes premières manifs, c'était pour le salaire égal, pour le droit à l'avortement, quand j'avais 19 ans, 20 ans. Et puis, j'étais à des manifestations syndicales, et puis contre les missiles, et puis contre l'installation des missiles américains, et puis pour 36 000 causes. Et puis, je me suis surtout intéressé à la question du travail, parce que j'ai vécu des expériences professionnelles qui m'ont profondément interpellé, choqué, révolté, et c'est à partir de, après, pendant 30 ans certainement au moins, c'est vraiment été le thème sur lequel je me suis engagé, quoi.
Wow, 30 ans, j'ai bien fait de demander si tu étais d'accord qu'on...
C'est 40.
Oui, tu as une expérience de malade. Mais ce qui est sûr, parce que le livre ici, Pour une réduction collective du temps d'emploi, donc moi, je ne l'ai pas lu, mais je vais le lire, là, je vais me plancher dessus. On va pas tout comprendre en 55 minutes. C'est pour ça qu'on aborde un peu qui tu es. C'est ça aussi un peu le micro ouvert, hein, c'est pas non plus de la théorie pure, quoi. C'est aussi intéressant de rencontrer Thierry, toi ici, ton expérience. Ça a été les élections, par exemple. T'as envie de nous donner les élections communales. Tu as envie de nous donner un petit retour par rapport à ça ou tu es dépité, tu veux même plus en parler?
Non, je suis plutôt dépité. Ben non, oui, c'est une catastrophe. Ce qui moi, me touche fort par rapport à ça, c'est... Je pense que les élections communales, mais surtout fédérales, mais bon, les communales n'ont jamais été que le prolongement, hein, qui a été bien construit d'ailleurs par les partis qui sont en train de préparer ce nouveau gouvernement et qui ne nous ont rien sorti avant les élections communales pour qu'on ne sache pas qu'ils ont été élus, selon moi, sur une imposture totale qui est de faire croire aux gens qu'ils vont protéger, voire renforcer les salaires, alors qu'il y a plein de mesures qui sont déjà prévues qui indirectement vont atteindre les salaires. Comme ils vont toucher à l'index, ils vont toucher à augmenter la TVA, réduire l'accès à la prépension, ou à la pension anticipée. Bon, c'est toute une série de mesures qui vont conduire à des baisses salariales, en réalité. Notamment aussi en touchant la sécurité sociale, qui est en fait un salaire collectivisé, socialisé. Plus on attaque les revenus de la sécurité sociale, plus on attaque le salaire. Donc toutes ces mesures-là, moi, ce qui me rend malade, c'est ça, c'est que ces élections sont construites sur une imposture qui va se révéler, mais évidemment trop tard. Et quant à la question des chômeurs, ben oui, elle prévoit la réduction, la limitation des allocations de chômage. Parce que dans mon spectacle, donc Les gens de peu, je présente comme une conquête qui devrait figurer au patrimoine universel de l'humanité. Et qui, hélas, va être attaqué parce que je pense que la Belgique est le seul pays, peut-être au monde, en tout cas en Europe, où l'idée, qui est déjà attaquée depuis 20 ans, hein, mais l'idée d'une allocation de chômage illimitée dans le temps était pratiquée. C'était une conquête énorme. Alors, je peux expliquer, en fait, fondamentalement, pourquoi je défends cette idée. C'est pas, évidemment...
Quand tu dis « je », c'est toi avec d'autres.
Oui, alors... avec le collectif Riposte CTE que tu as cité tout à l'heure. Donc le collectif a été dissous. Hein. C'est un collectif qui a été créé en 2012, donc au moment où le fameux gouvernement Di Rupo, après 500 et des jours, a été mis en place.
C'est un gros traître, lui, non?
Oui.
Encore un, tu
l'as... La liste des traîtres va nous occuper pendant toute l'émission, si tu veux. Donc, bon, passons là-dessus. Ce qui était clair, c'était que tous les journalistes à l'époque se félicitaient que la Belgique ait enfin un gouvernement. Et moi, avec mes amis, notamment au chômage, on était très contents qu'il n'y ait pas de gouvernement parce qu'on savait que quand il y en aurait un, ils allaient attaquer les droits au chômage. Donc, ça n'a pas été une bonne nouvelle, évidemment, que ce gouvernement soit créé. Et avec les mesures qu'ils ont annoncées à ce moment-là, donc qui étaient la limitation des allocations d'insertion, donc qui ne s'appelait pas comme ça avant, c'était allocation d'attente, qu'ils ont appelé allocation d'insertion, ce qui indiquait bien le changement de perspective, la dégressivité généralisée des allocations, plus d'autres atteintes dont on a moins parlé. Mais
ils ont aussi viré tous les gens qui n'avaient jamais travaillé... du chômage, qui n'avaient jamais travaillé. Ils ont viré les gens du chômage qui n'avaient jamais travaillé, c'est ça ?
Qui n'avaient pas suffisamment travaillé que pour ouvrir leur droit au chômage sur base d'un travail. Donc il y a deux catégories de chômage. Il y a le chômage allocation d'insertion, que tu as droit après, je crois que c'est 6 mois, quand tu es inscrit à la sortie de tes études, tu accèdes aux allocations d'insertion. Mais tu dois travailler pendant une certaine période pour ouvrir ton droit au chômage sur base de ton salaire. Et les allocations d'insertion ont été limitées. C'est-à-dire qu'à partir de ce gouvernement, tu avais un âge limite avant lequel tu devais avoir ouvert tes droits aux allocations sur base d'un salaire, sinon tu n'avais plus rien. Et cette mesure, l'application de cette mesure a conduit 50 000 personnes hors du chômage. Donc ils se sont retrouvés soit sans rien, soit avec le revenu d'insertion, donc l'ancien Minimex.
C'est le CPS, ça ?
Oui, le CPS. Donc c'est la fameuse mesure qui a fait saigner le cœur d'Elio Di Rupo, qui l'a fait saigner tout seul, puisque c'est lui qui a pris la mesure, c'était le Premier ministre. Non, ça nous a fait une belle jambe qui saigne, mais oui, donc c'est ce gouvernement qui a pris ces mesures-là, et dès qu'ils ont créé ce gouvernement et qu'ils ont annoncé ces mesures, on a créé un collectif donc, qui s'appelait Riposte CTE. Il y a eu une tentative à Bruxelles en parallèle, mais qui n'a pas fonctionné. Et donc on a fait vivre ce collectif pendant, je ne sais plus maintenant, 2012, plus 6 ans, quelque chose comme ça.
Mais vous avez bien fait parler de ce collectif. Hein. Moi, qui suis pas plus au courant, enfin, ça a bien. Moi, j'ai entendu parler de ce Riposte.
Il y a deux choses qui ont vraiment marqué le collectif. C'est un, qu'on a créé un réseau, alors qu'il s'est appelé d'un nom barbare, réseau Stop Article 63, paragraphe 2. L'article 63, paragraphe 2 étant l'article qui limitait les allocations d'insertion dans le temps. Et ça, c'est un réseau qu'on a essayé de développer dans plusieurs villes de francophonie, on va dire. Donc, il y avait un groupe à Bruxelles qui s'est développé. On avait des relations avec des gens dans le sud du Luxembourg. On a fait une manif, ce qui était la dernière qu'on a organisée, où il y a eu 6 manifestations dans 6 villes le même jour, avec le thème qui était « On rentre chez nous ». On partait des CPS pour aller vers l'ONEM en disant « L'ONEM, c'est chez nous, on n'a rien à foutre au CPS. L'ONEM, c'est notre droit, c'est nos conquêtes de salariés, sur les conquêtes qui est le droit au chômage ». Et voilà, donc il y a eu ce réseau-là bon, qui a échoué puisque les mesures sont passées. En gros, le syndicat a obtenu quelques petites bribes, mais bon, pas très significatives. Enfin, le syndicat est dans le combat à nous aussi. Hein. Et là, surtout la deuxième chose qu'on a fait en parallèle de ça, c'est qu'on a vraiment interrogé notre rapport à l'emploi et au travail. Ça veut dire quoi travailler ? C'est quoi l'emploi ? Quelles sont les alternatives qu'on peut imaginer? Et c'est là qu'on a rencontré notamment Bernard Friot avec sa proposition de salaire à vie, une espèce de droit au chômage inconditionnel qui s'étendrait pour devenir un salaire pour tous, qui serait inconditionnel et à vie. Enfin, je peux développer. Ça a été vraiment la marque de fabrique de notre collectif qui nous a valu pas mal d'inimitié, notamment au niveau des syndicats, parce que c'était lu comme « Ah oui, il défend le fait de ne pas travailler, on ne peut pas tenir un discours pareil, les libéraux vont s'en emparer ». Or, pour nous, c'est l'alternative fondamentale et qui est développée dans ce bouquin.
Pour une réduction collective du temps d'emploi.
Qui est de dire, à partir du moment où on considère, si on est de gauche, on ne peut pas le considérer autrement, c'est que le travail organisé sur la forme salariale, la forme d'emploi, est une matrice d'exploitation, de subordination des gens et d'aliénation. C'est pour moi la base même de ce que c'est que d'être à gauche, c'est-à-dire c'est d'analyser le capitalisme comme étant ce que je viens de dire. Et le capitalisme organise le travail sur ces trois principes. On ne peut pas, pour moi, être de gauche sans défendre l'idée qui est qu'on doit sortir de ce rapport salarial d'exploitation, d'aliénation et de subordination. Et la seule alternative que je connaisse à ça, c'est le salaire à vie, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de propriété lucrative, il n'y a plus de rapport d'exploitation dans le travail. Il peut y avoir encore des rapports de domination, on va dire comme il y en a dans toute association ou coopérative, dans tout collectif, il y a des rapports de domination, des gens qui s'arrogent le pouvoir. Bon, il y a des mécanismes de ce type-là, mais on n'est plus dans un rapport d'exploitation au sens...
Si je comprends bien, au sens où tu travailles pour un boss là-haut qui profite de ton temps, de ton énergie. C'est ça aussi, parce que c'est chouette aussi de bien comprendre, de mieux comprendre, parce que quand on parle de salariat, ça veut dire que c'est quelqu'un qui va t'employer tous les mois, que tu auras un salaire avec lequel tu pourras subvenir à tes besoins, mais pas trop non plus, hein, parce que sinon tu pourrais partir parce que tu aurais mis de l'argent de côté. Enfin, j'en sais rien. Non, mais je veux dire,
Oui, je vais expliquer. Alors, il y a une distinction qu'il faut faire clairement. Quand on dit aux gens, si je dis à quelqu'un, tu te fais exploiter dans ton travail, il me dit, tu rigoles, je suis bien payé dans mon travail. La question n'est pas... Ce qui fait qu'il y a un rapport d'exploitation, ça n'est pas le fait que tu as un patron qui te paye bien ou pas bien. C'est le fait que tu travailles une partie de ton temps pour lui. C'est-à-dire que c'est du temps gratuit. C'est ça que...
Quand tu dis une partie de ton temps, par exemple, celui qui aura un salaire plus haut, oui, il pourra dire une partie de son temps. Mais celui qui a un faible salaire, ce sera tout son temps. Tu vois déjà la différence.
Oui, donc tu as des variations, oui, dans la mesure de l'exploitation. Oui, voilà. Mais la base même, c'est le processus d'exploitation. Alors, je donne un exemple. On avait fait avec Riposte des petites vidéos là-dessus. On en a fait une qui a tourné vraiment à mort. Je n'ai pas compris comment ça a fonctionné, mais ça a très bien fonctionné. Où j'expliquais le principe de l'organisation du travail dans le système capitaliste, qui est celui dans lequel le travail est organisé aujourd'hui quasi partout dans le monde. C'est, en gros, je travaille, je produis 20 crayons sur ma journée, mon patron vend les 20 crayons, et puis il me verse un salaire qui équivaut à 10 crayons. Sur les 10 crayons, la valeur des 10 crayons restants que j'ai produite par mon travail, cette valeur, c'est mon travail qui l'a produite, il va en prendre 4 pour payer les intrants. Un crayon, il faut du bois, il faut faire la mine. Bon, il y a des produits, il y a de l'énergie, du gaz, de l'électricité. Il va en prendre 3, je tape des chiffres comme ça, hein, il va en prendre la valeur de 3 crayons pour ses investissements et il va garder la valeur de 3 crayons pour lui. Cette valeur-là, c'est moi qui l'ai produite. Donc, c'est comme si j'ai travaillé 8 heures pour faire tous ces crayons, il prend 3 dixièmes de la valeur pour lui, c'est comme si j'avais travaillé 3 dixièmes de 8 heures gratuites pour ses beaux yeux. C'est ça, l'exploitation. Alors, un patron, c'est un pain, ben, il gardera 2 heures, la valeur de 2 crayons, un autre va en prendre 4, et toute la lutte salariale dans laquelle on est depuis la création du salariat, c'est cette lutte-là, c'est-à-dire comment je récupère la valeur que j'ai produite, c'est-à-dire la totalité de la valeur que j'ai produite par mon travail, et chez le patron, comment il va faire baisser la valeur qu'il va me donner et en garder une plus grosse partie. C'est ça, la lutte. Et il n'y a pas de consensus possible, c'est-à-dire si je suis contre l'exploitation, il n'y a qu'une façon d'en sortir, c'est qu'ils ne prennent plus aucune valeur de ce que moi j'ai produit. Alors quand on a des gens à gauche qui disent il y a moyen, on est de gauche, mais on peut se battre pour que les salaires soient corrects, que la part redistribuée, ce qu'on appelle la redistribution de la valeur entre l'employeur et le travailleur, soit plus juste. Il n'y a qu'une valeur juste. C'est que celui qui travaille récupère la totalité de la valeur qu'il a produite. Il n'y en a pas d'autre. Donc on ne peut jamais dire il faut une distribution plus juste, puisqu'il n'y a pas de distribution juste. C'est un processus de prédation. Et il n'y a pas de prédation juste. Même une prédation minime est une prédation injuste, puisqu'elle est une prédation par définition.
Il y a des gens, ils disent... Pour parler aussi de l'usine, hein, et de l'industrie, par exemple, parce que avant c'était le travail artisanat, pour faire une petite différence comme ça, tu vois, pour dans l'histoire, le travail n'a pas eu toujours la même notion d'exploitation, quoi. On peut dire ça, tu comprends ce que je dis? Après, il y a les usines qui débarquent, le travail va changer, il va devenir industriel aussi. Et donc, le profiteur, il va pouvoir encore s'en mettre plus dans les poches, on va dire, puisque là, c'est industriellement que les choses sont faites. Et moi, j'ai aussi entendu de la gauche qui disait « Oh, mais le problème, en fait, c'est se réapproprier les moyens de production ». Comme ça, on est plus exploité.
Oui.
Mais c'est ça que tu veux dire ?
Oui, c'est ça que j'explique. C'est-à-dire, si on veut arriver à un processus où il n'y a plus de prédation de la valeur produite par des travailleurs, plus aucune, il faut que les travailleurs aient la propriété collective de l'outil de production, qui n'appartient plus à quelqu'un d'extérieur, à ceux qui produisent avec cet outil. Cet outil revient à ceux qui l'utilisent.
Revient à tout le monde, alors.
Oui, alors, par exemple, chez Bernard Friot, c'est ce qu'il appelle des collectifs de travail et d'outils de production. Alors, chez Bernard Friot, c'est particulier par rapport à ça. Et je trouve qu'il y a une innovation. C'est qu'il dit la propriété des outils de production est sociale. Elle n'appartient plus à personne. Pour le dire autrement, elle appartient aux usagers de l'outil de production, c'est-à-dire ceux qui le font fonctionner, tant qu'ils le font fonctionner. ce qui est différent des coopératives actuelles, par exemple, si une coopérative ferme boutique, elle vend l'outil de production de la coopérative à quelqu'un qui veut reprendre l'entreprise, et le capital qui revient est redistribué entre les coopérateurs. Donc ça reste une propriété privée, même si elle est collective, même si elle est égalitaire, contrairement dans l'entreprise capitaliste, où si tu as plus d'actions, ben tu as plus de parts sur la valeur de l'entreprise. Dans une coopérative, on peut égaliser ça. Donc chacun, les coopérateurs peuvent se redistribuer le truc. Chez Bernard Friot, il n'y a plus de redistribution de ça. Ça appartient à tout le monde, si tu veux, l'entreprise. Donc quand l'entreprise, elle appartient en termes d'usage, c'est pour ça qu'il distingue la propriété d'usage, les usagers d'un outil de production sont les propriétaires de l'entreprise qu'ils utilisent, donc tu ne peux pas arriver le matin une heure avant eux et dire « dorénavant c'est chez moi hein ». Ça leur appartient bien à eux, ils ont un contrat d'usage, mais s'ils arrêtent, par exemple, on fait une boulangerie, nous deux, on décide d'arrêter parce que tu n'as plus envie de faire boulangère, ou on s'engueule tous les deux et il vaut mieux qu'on arrête. Ben, l'outil est remis à disposition d'un nouveau collectif, il n'est pas vendu et que nous, on récupère chacun la moitié. C'est ce qui se passe maintenant. Si un boulanger reprend sa boulangerie, ben, il récupère le capital. Ce qui est amusant d'ailleurs, c'est de constater que ce capital, ce sont ces travailleurs qui lui ont payé. Donc, j'explique parce que souvent, les gens ne se rendent pas compte de ça. Bernard Friot, il expliquait quand il venait ici à Liège, il parlait évidemment d'ArcelorMittal. Il disait quand Mittal vient racheter Arcelor, il ne vient pas avec des valises avec des millions dedans. Il a un prêt bancaire qui lui est garanti, assuré par la banque, parce que la banque sait qu'il a des richesses, donc il a une couverture en cas de problème. La banque peut récupérer sa thune. On lui prête des sous. Avec les sous, il achète les titres de propriété, mais il ne les a pas payés. C'est la banque qui les paye. Et puis, il vend le métal, la production des métallos. Il prend une partie chaque fois de ce qui est vendu pour donner à la banque. Et puis, quand il a donné toute la valeur, remboursé son prêt à la banque, il est de fait le propriétaire de l'entreprise. Qui a payé le rachat de l'entreprise ? Les métallos. Les métallos, c'est-à-dire, c'est par le travail qu'ils ont fait, a produit du métal, le métal a été vendu, et avec la vente du métal, Mittal a payé le rachat de l'entreprise. Donc, c'est les travailleurs qui payent aux capitalistes l'entreprise dont il devient le propriétaire. Ce qui est quand même hallucinant. Moi, quand Bernard Friot, il a expliqué ça, je suis tombé sur mon... J'ai dit, putain, mais c'est pas vrai, mais c'est une arnaque de ouf, quoi. Voilà. Alors, à partir de là, nous, on développe notre réflexion sur réduction du temps de travail, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, ça a vraiment questionné...
Mais avant de partir par là, juste parce que moi, j'entends bien cette idée de « Oui, mais réapproprions-nous les moyens de production. » Ok, faisons qu'on soit tous à égalité. L'appareil de production, c'est à nous tous. Donc, on discute à nous tous. La richesse qu'on va produire, c'est nous tous qui va la partager. D'accord ?
T'es d'accord ? Les usagers de chaque entreprise décident ce qu'ils font de leur entreprise.
Oui, oui. Mais qu'est-ce que tu croyais que je disais ?
Ah, parce que tu dis nous tous, on ne va pas réunir tous les Belges pour décider...
Non, chaque entreprise, chaque cellule de travail, c'est du travail, après. Parce que la question, c'est le mot « travail ». Et c'est aussi quel genre d'entreprise, tu vois Parce que ça, on n'en discute jamais aussi, tu vois. Il suffirait de se réapproprier les moyens de production et c'est gagné. On n'est plus dans un monde capitaliste et c'est fini, on est en paix. Vive l'amour.
La réappropriation, l'appropriation collective, moi j'aime mieux la formule de Friot, parce que l'appropriation collective, elle entend que, effectivement, l'entreprise appartiendrait en tant que patrimoine économique appartiendrait aux travailleurs. Non. Donc le patrimoine appartient à la société, socialisé, mais son usage, son droit d'usage, sa propriété d'usage appartient à ceux qui l'utilisent. Donc c'est quand même une distinction importante. Alors comment ça s'organise dans la proposition que nous défendions avec Ripos CTE, et donc on reprend Bernard Friot. Donc lui, ce qu'il propose, c'est un salaire à vie inconditionnel. C'est-à-dire, à 18 ans, tu as un droit politique qui est le droit de vote ou d'éligibilité. L'éligibilité, c'est 21 ans, je crois. Le droit de vote, 18 ans. Et tu as, tu es reconnu également comme producteur. Donc, tu es électeur et producteur. Tu es citoyen et producteur. Ça veut dire qu'à 18 ans, tu es considéré comme produisant de la valeur économique au profit de la société. Et donc, que tu as droit à un salaire. Moi, peu importe ce que tu fais.
C'était ça que j'avais envie de discuter, c'est ce point-là. Mais qu'est-ce qu'on produit, tu vois ? Oui, Voilà.
Donc, son idée de base, c'est chacun produit ce qu'il veut. Alors, tout le monde dit, il y en a qui vont rien foutre.
Alors, ah oui, tu veux dire chacun produit de la manière qui... c'est le temps de travail, ça. C'est ça. Parce que quand ils disent que moi, je l'entends... Moi, je l'entends, chacun produit ce qu'il veut. Il peut produire des bananes, il peut produire des chênes, il peut produire... C'est ça que j'entends.
Oui, donc chacun produit ce qu'il veut. Tu autodétermines à quoi tu vas consacrer ton temps. D'accord ? Ton salaire n'est plus lié à l'activité de production concrète.
Oui, ça c'est Friot. Bon.
Donc ça veut... Alors, évidemment, la question qui se pose alors que tout le monde se pose, oui, mais alors on va produire des choses inutiles. Mais chez Bernard Friot, je pourrais dire chez Riposte, je renvoie quand même à César ce qui lui appartient. C'est que ça va être vendu. C'est vendu. Et donc, par la vente, on va vérifier si ce que tu produis a un intérêt social, s'il y a des gens que ça intéresse ou pas. Sachant que ça peut être vendu super bien, toi, tu ne gagneras pas plus, tu as un salaire fixe. Le bénéfice qui va être fait va retourner dans les caisses qui vont permettre de financer les salaires de tout le monde et de vérifier si ce qui est produit a une utilité sociale ou pas. Si tu produis du pain et que personne n'achète, c'est que tu ne fais pas bien ton pain, et à un moment donné, on va te dire, bon, arrête de faire du pain, puisque c'est pour jeter, c'est juste du déchet. Fais autre chose.
Mm-hmm. Bon. Du pain, c'est un mauvais exemple, parce que le pain, on en a besoin.
Oui, enfin, il y a des gens qui font
on pourrait prendre.
Il y a des gens qui font du mauvais pain, oui, peu importe, on peut reprendre ce que tu veux. Et il y a des structures délibératives qui vont délibérer sur ce dont on a besoin socialement, qui n'est produit par personne.
Comme quoi ?
Ben, j'en sais rien. Si personne ne veut faire... par exemple, personne ne veut faire des smartphones. Ben, on est bien dans la merde. Hein. Alors, soit on se passe de smartphone, ce qui n'est pas forcément mal, soit il faut trouver qui le fait et organiser, délibérer comment va s'organiser la production de smartphones. On va peut-être bien se rendre compte que vraiment, 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 personne ne veut le faire et donc on va décider de s'en passer, ce qui ne serait pas une mauvaise idée. Ça veut dire qu'il y a des tas de productions inutiles.
Qui vont tomber, quoi.
En tout cas, qui vont être considérées comme finalement pas suffisamment utiles que pour que qui que ce soit ait envie de les faire. Et donc, ça ne sera pas une mauvaise chose. Et en termes écologiques, ça peut avoir beaucoup d'effets positifs. Donc, je trouve ça très bien. Après, on va aussi déterminer des tâches utiles que personne n'a envie de faire, mais que tout le monde considère comme utile. Alors, tout le monde cite toujours l'exemple classique. Oui, mais personne ne va vouloir ramasser les poubelles. Ce qui n'est pas forcément juste. Il y a assez connu quand même que les gens qui travaillent au service voirie sont souvent fiers de leur boulot. Et il y a en tout cas une chose dont moi je suis persuadé, c'est que si on faisait ça et que tout le monde devait avoir son tour dans le mois pour ramasser les poubelles, vite fait, on automatiserait le ramassage des poubelles. Avec des bras articulés qui viennent frotter le vide. Et là, il y a des gamins qui vont se battre pour conduire le gros camion qui va manipuler les bras articulés, qui ramasse les containers. Et ben ça. Donc il y a moyen, par rapport aux tâches pénibles, difficiles ou désagréables, de les améliorer par...
par la technologie.
La technologie, voilà.
Ah ouais, vraiment ?
Oui, je crois bien, oui, bien sûr.
Oui.
Ça n'exclut pas la technologie, je dirais. Mais
tu trouves.
En tout cas, dans des contextes, dans des situations délibérées, collectivement. Et je pense que ça, c'est ben, la technologie. Je ne rejette pas la technologie. Le problème de la technologie dans un système capitaliste, c'est qu'elle ne sert jamais qu'à à exploiter davantage les gens, à les mettre davantage, à les désapproprier de leur savoir professionnel, à les mettre sous des systèmes de contrôle de production.
Mais dans l'histoire du travail, c'est une longue histoire, ça, ouais. Parce qu'on aborde là un sujet, moi, qui m'importe, c'est la technologie, comment elle est venue aussi. Abîmer tout le social, quoi. Je pense aux ludites, quoi, tu vois, les artisans.
Tout le monde dit ça. J'ai eu le même mot que toi, les ludites.
Oui, mais je veux dire, et que tu dises aujourd'hui, enfin, j'essaye de comprendre en même temps, oui, je comprends, on pourrait rendre ça peut-être moins pénible, le fait de ramasser les poubelles. Mais c'est des sujets compliqués, quoi, parce que là, on aborde le travail. Mais ce serait... j'essaie de comprendre... Je te dis, Frio, j'ai essayé déjà de le comprendre plusieurs fois. Bon, bah, en gros, ce qu'on peut retenir, c'est toujours ce que je l'ai déjà dit, c'est cette idée de réapproprions-nous les moyens de production. Parce qu'aujourd'hui, même sans avoir lu Bernard Frio ou entendu Bernard Frio ou essayé de le comprendre... Il y a plein de gens de la gauche aujourd'hui qui disent réapproprions-nous les moyens de production, mais on continue à produire de la même manière, on change pas nos manières de vivre, on continue à technologiser les choses et à exploiter le Sud. Enfin, tu vois, c'est pour ça que je vais un petit peu te bousculer là-dedans, parce que il y a quoi qui change, quoi, au fond. J'ai entendu, hein, t'as quand même été plus nuancé que ça en disant qu'en fait ce seraient les gens à l'intérieur de leur travail qui choisiraient de produire. Si ça marche pour eux, tant mieux. Si ça marche pas, il faut changer. Mais je trouve que ça fait tellement du bien. Mais alors ça fait diktat de dire qu'il faut changer notre manière de consommer, de manger, de se déplacer.
L'intérêt pour moi dans cette vision-là, c'est que tu n'es pas dans un rapport moral qui est de dire c'est pas bien de consommer ça. C'est plus de partir de qui a envie de produire ça.
Oui, ça j'ai entendu. Bon,
et ça change radicalement. Parce que je pense que beaucoup des choses qui sont pourries, qui sont produites aujourd'hui, personne n'aurait envie de les produire. Elles ne sont produites que parce que des gens sont contraints à les produire pour pouvoir survivre.
Ben ça, c'est bien que tu le dises, oui.
C'est quand même fondamental, y compris, évidemment, je suis dans une utopie totale, qui est que si on généralisait ce système au niveau mondial, qui va aller dans des mines chercher de l'uranium ou chercher des produits pour produire les smartphones? Alors évidemment, si on reste dans un système local qui détermine tout ça, et que on continue à avoir des smartphones et on continue d'exploiter le Sud pour pouvoir, nous... ou de les faire produire par les Chinois, et donc du coup, on ne se pose pas la question. Non, donc toutes ces questions, elles doivent être... Mais au moins, elles sont délibérées collectivement, et elles sont délibérées où tu n'as plus la corde autour du cou pour discuter. Parce qu'actuellement, la question, elle ne se pose pas. Quand tu dois survivre, tu vas produire de la merde, voilà, et tu vis avec. Alors, soit tu te dis, ouais, je m'en fous, soit tu te dis...
J'ai pas le choix de me poser ces questions-là.
Ou je me les pose et ça me fait chier tous les matins de me lever pour aller faire ce genre de boulot, de bullshit job, comme disait Graeber. Voilà, je trouve que tu sors quand même du cadre. Tu as un autre cadre dans lequel les choses se délibèrent. Et effectivement, il y a des délibérations politiques qui continuent d'avoir lieu sur la dimension écologique des choses. Est-ce que, même s'il y a des gens qui disent « Ouais, moi, j'aime bien produire du nucléaire », je ne sais pas très bien qui aurait envie de passer sa vie volontairement en sachant que, tu le fasses ou pas, tu as quand même ton salaire, va aller produire du nucléaire. Bon, il y a sûrement des ingénieurs nucléaires que ça passionne de continuer à se casser la tête là-dessus. Mais il n'empêche qu'il peut y avoir des délibérations collectives politiques qui décide, non, on ne fera pas. Et là où ça me paraît fondamentalement différent de la situation actuelle, c'est qu'aujourd'hui, on parle toujours de démocratie politique. Moi, je ne crois pas à la démocratie politique représentative actuelle. Et quand on dit que c'est une démocratie bourgeoise, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les partis politiques sont élus dans un cadre où tu as une économie qui n'est pas démocratique. C'est radicalement différent, une politique un système politique démocratique dans lequel existe une démocratie économique, c'est-à-dire où les entreprises appartiennent aux travailleurs et où les conditions de tes ressources vitales ne sont pas déterminées par ton travail, par le fait d'aller vendre ta force de travail. Parce que ça intervient tout le temps. Quand les gens vivent mal des trucs et que tu leur dis oui, mais il faudrait changer, etc. Ils te disent, mais non, mais de toute façon, on ne changera jamais. Parce que les gens qui sont au pouvoir te disent, oui, mais il y a un système, voilà, on peut pas s'endetter, on peut pas dépenser plus dans les services publics parce que ça rapporte rien. Tu vois, alors chaque fois, on dit, ben oui, ils ont raison.
Ils ont raison parce qu'on n'a pas non plus le cahier sous les yeux, tu vois. On est complètement dépossédé.
On n'a pas la maîtrise de l'économie.
On a perdu.
Ben, on l'a jamais eu.
J'imagine que quand tu es en petite tribu, pour comprendre le monde, c'est intéressant de reculer, tu vois.
Oui, oui. Après, je ne suis pas forcément dans des projections idéalisantes des sociétés primitives dont on ne sait pas tout à fait.
Bien sûr que non. De toute façon, le bonheur, comment dire, ou l'égalité, tout le temps. Je veux dire, il y a eu toujours des rapports de force, évidemment, mais attends, t'as déjà vu le monde, non ? Moi, c'est pour ça que j'aime bien reculer. Je veux dire, tu regardes le monde comme il est aujourd'hui, tu te dis, mais comment c'est arrivé tout ça, quoi ? Et tu recules les pages et t'essayes de comprendre. Et alors, quand moi je parle, mais c'est pas que moi, quand je parle des tribus, alors il y a des gens comme toi qui vont dire, oui, mais attends, là... Mais c'est simple, je dis simplement ça pour comprendre comment on en est arrivé à être dépossédé de tout, quoi. Tu vois, on n'a plus aucune maîtrise de rien. Je veux dire, que ce soit la tribu ou le village, t'as encore des notions, quoi. Tu vois, tu peux aller discuter celui qui fait le diktat ou celui qui... Enfin, tu vois... Et j'ai lu des bouquins extraordinaires qui expliquent aussi que quand il y en a un qui veut faire plus le malin que l'autre, dans des petites sociétés, on le remet très vite à sa place, quoi. Tu vois, il y a une maîtrise des choses. Là, c'est tellement à échelle mondiale, globale, qu'il y a plus. On est complètement dépossédé de nous-mêmes, quoi. Tu comprends ce que je veux dire ? Je n'idéalise pas. Mais alors, j'entends souvent les gens qui disent oui, mais tu idéalises. Mais non, j'idéalise pas une vie antérieure, mais c'était déjà plus plus correct, quoi. Tu vois, d'office. Oui.
Alors, si. Je veux dire deux choses. D'abord. Juste pour terminer ce que je disais avant ta réaction, c'était que, de nouveau, Bernard Friot, il explique, enfin, c'est Marx qui l'a expliqué avant lui, mais c'est pour donner un exemple, c'est que la bourgeoisie a pris le pouvoir politiquement après l'avoir pris économiquement. Et donc, tant qu'on n'a pas pris le pouvoir sur l'économie, on ne prendra jamais le pouvoir politique. C'est impossible. Puisque c'est l'économie qui détermine nos conditions d'existence concrètes. Donc les orientations politiques sont toujours déterminées par la structure même de l'économie.
Tu veux dire qu'est-ce qu'on va manger, ou comment on va se chauffer, où on va dormir. C'est ça les questions.
Tant que fonctionne le chantage à l'emploi, tant qu'on te dit si tu ne fais pas ça, tu ne bouffes plus, tu sais rien déterminer. Puisque les politiques sont toujours liées, vont toujours être liées au système économique, aux nécessités de la production capitaliste. Oui, les entreprises s'écroulent, l'économie s'écroule, donc il faut prendre des mesures d'austérité pour relancer l'économie. Ça veut dire pour toujours que les entreprises continuent à faire du profit, le système financier continue à se développer, etc. Si tu touches, si politiquement tu touches à ça, les entreprises jouent la menace à « on va fermer la boîte, on va aller ailleurs », etc. Donc il faut prendre l'outil de travail. Après, on peut alors déterminer des conditions politiques, prendre des décisions politiques différentes. C'est ce que la bourgeoisie a fait. Et je pense que, en gros, Marx montre ça. C'est que tu as toujours d'abord une lutte sociale, une lutte économique, une prise de pouvoir sur l'économie qui bascule au niveau politique. Bon. Bref, je passe sur ça. Maintenant, par rapport à ce que tu dis, oui, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. C'est ce qu'on appelle le développement des communs, c'est-à-dire comment revenir à des niveaux, systèmes de relations sociales qui sont de proximité et où les décisions sur ta vie redescendent à un niveau beaucoup plus proche, local, qu'aujourd'hui. Bon, ça, je défends tout à fait.
C'est-à-dire que tu bouffes des haricots du Kenya, quoi. Tu vois.
Oui, donc ça ne va pas. On est d'accord.
Souvent, non, mais les gens de gauche, quoi, ou les militants de gauche, oui. Pas toi. Hein. Toi, tu es précisément, je crois, quelqu'un qui amène une autre fenêtre, quoi. Mais ils disent... j'ai perdu mon fil, tu vois. Je fais une petite incise pour dire que toi, non. Mais l'histoire des communs. Mais on parle souvent de la vie, de l'histoire avec un grand H, à partir des usines, quoi. À partir de la révolution industrielle, tu vois. Mais on se soucie très peu de ce qu'il y avait avant, tu vois. Je me demande pourquoi. Alors que avant, nous montre aussi des chouettes,
J'ai lu un truc, j'ai oublié le nom maintenant, c'est un sociologue canadien, je ne sais plus, que j'étais tombé, je crois, un peu par hasard, et qui expliquait comment fonctionnaient les villages dans ce fameux Moyen-Âge obscur, de l'obscurantisme total, et qui était complètement démocratique.
Il y a eu des périodes dans l'histoire du Moyen-Âge.
Ouais.
Qui était démocratique.
On ne m'a jamais parlé du Moyen-Âge comme ça. Il y avait des démocraties directes dans les villages. Alors, il y avait aussi la place des femmes qui était très différente. Donc, la chasse aux sorcières a cassé. Les productions des savoirs, la transmission des savoirs étaient différentes, etc. Et qu'il y a des choses super intéressantes à aller chercher là-dedans. Que je crois que beaucoup de gens aujourd'hui retravaillent là-dessus, sur ce que j'appelle les communs, que ce soit à travers la production de lieux associatifs ou la réappropriation des terres de manière communautarisée. Il y a plein d'expériences que j'ai vécues, dans lesquelles je me suis aussi impliqué à un moment donné. Ma vision de l'engagement politique, il y a longtemps que j'ai pensé qu'il faut agir sur deux plans. Un, sur un plan macro-politique qui est construire un cadre politique qui permette de transformer le système économique politique où on est et en même temps de produire dans la réalité concrète, ici et maintenant, aujourd'hui, l'expérimentation de manière alternative de vivre, de produire, de créer, de décider, de partager nos vies quotidiennes, et que ces deux éléments-là sont nécessaires. Et je me suis souvent pris le choix avec des gens qui défendent le deuxième, qui disent oui, enfin, les luttes des chômeurs, tout ça, on s'en fout, de toute façon, tout ça, c'est foutu. Ce qu'il faut, c'est se réapproprier la terre, créer des fermes, autogérées. Et je dis, mais 90% des gens qui vont en Belgique, qui se sont engagés dans des projets collectifs comme ça, l'ont fait en étant au chômage. On a fait un livre qui s'appelle « Showing Out », qu'on a écrit au début des années 2000, et qui montre très bien ça. C'est toutes les expériences que nous avons pu mettre en place à l'époque, des expériences collectives, qu'on a pu mettre en place parce qu'on était au chômage et qu'on envoyait se faire foutre les offres d'emploi qu'on recevait à une époque où il était possible de le faire, que maintenant tu ne saurais plus faire pareil. Bon. Et ces expériences collectives ont eu lieu parce qu'il y avait un système de chômage qui nous permettait de vivre, ou survivre, mais suffisamment pour vivre correctement et qu'on puisse faire de notre temps de vie ce qu'on voulait. Et qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas passé notre temps à glander, on faisait des choses qui nous passionnaient.
Mais même si on a envie de glander, Glander fait partie aussi de la vie, crois. C'est important de le dire. Je veux dire, quand tu glandes, tu imagines, tu rêves, et puis après, tu as envie de te mettre en action. Il n'y a pas de mal de glander.
Je suis d'accord avec toi, prendre son temps. J'ai écrit dans Les gens de peu, mon spectacle, il y a un texte que j'avais écrit justement à l'époque du livre Showing Out, mais qu'on n'a pas mis dedans, et qui s'appelle Oser. et qui dit, qui explique ça, quoi. C'est-à-dire oser ne rien faire, rien d'utile, rien de pénible, parfois même tout simplement rien, mais alors rien du tout. Ça a des moments forts du spectacle parce qu'il y a beaucoup de gens qui adorent ce petit moment d'audace, oser, de dire, mais si, on peut oser ne rien faire, et c'est pas forcément mal. Et comme dit le nouveau Bernard Friot, au moins quand tu fous rien, tu ne produis pas de la merde, tu n'exploites personne, voilà. Tu produis pas tu fais pas du bullshit job, voilà. C'est donc clair. Finalement, tu es pas très néfaste, hein, ce qui est déjà pas mal.
Mais ce qui colle aussi avec c'est de ne pas avoir besoin de grand chose, en fait. Ouais.
Oui, parce que c'est la. Comment on dit comment est-ce qu'on dit le truc volontaire, là. La décroissance. C'est pas la décroissance.
Tu as compris, quoi. Il y a 47 minutes déjà.
Oui.
Vers quoi tu aurais envie d'aller qu'on n'a pas discuté ou tu as envie de préciser quelque chose sur ces discussions qu'on ébauche, hein, on ne fait que les ébaucher, quoi. Mais ça donnera envie peut-être aux gens de trouver le livre pour une réduction collective du temps d'emploi. Il y en a encore des livres.
Oui, oui, oui.
Voilà. Ça donnera envie de peut-être te rencontrer parce que tu as 40 ans de bouteille là-dessus. Enfin, voilà. Qu'est-ce que tu auras envie de.
Mais moi, j'aurais envie de dire reprenez la lutte, puisque c'est quand même ça l'idée.
Non, mais c'est ça que je voulais dire, mais on est loin de là, on est loin de ça quand même. Hein. Aujourd'hui, avec les nouvelles politiques là qui vont arriver, qui sont en cours, c'est de la rigolade tout ce qu'on discute.
Non, c'est pas de la rigolade, parce que, tu sais, les comme dit un ami à moi, qui dit aussi ce qui fait sens dans la vie, c'est la lutte, et qui t'explique que dans les années 30... Personne n'avait vu venir la lutte pour les congés payés. Personne. Ça a surgi en 1936. En 1933, les luttes des mineurs. Et ça a enclenché un processus de lutte ouvrière qui a conduit à ça. Mais quelques années avant, personne. Et même les luttes étaient plutôt... les gens s'en ramassaient sur la tronche, tu vois. Et puis,
Hitler arrivait au pouvoir en 1933.
Ce truc surgit. Mais qui est fondamental. C'est-à-dire, l'idée... de dire que pendant une période de ta vie, de ton année, tu vas passer ton temps à ne rien faire et ton patron va te payer. Ton patron te paye pour te reposer. C'est un décalage, comment on dit, tu vois, un décalage, il y a des mots savants pour dire ça, enfin, presque philosophique, quoi, de dire, je pense que quelques années avant, personne n'a osé se dire... Dites, est-ce qu'on pourrait pas réclamer des patrons qui nous payent à rien foutre? Je crois que tous les autres devaient rigoler, ils disaient, c'est comique, lui. Hein. Et c'est devenu une revendication ouvrière qui a été une lutte énorme, terrible, et qui a gagné. Et on en est maintenant à 4 semaines, même dans certains secteurs, à 5 semaines de congés payés. La réduction collective du temps d'emploi, on la voit toujours comme réduire le temps hebdomadaire. Donc passer de 40 à 38, de 38 à 36. Mais la réduction collective du temps d'emploi, c'est aussi des congés payés. C'est-à-dire continuer d'avoir un même salaire annuel en travaillant moins pour un patron. Si tu imagines que passer de 38 heures à 32 heures, c'est-à-dire 6 heures de moins... C'est un sixième. Donc sur 11 mois de travail, gagner un sixième de temps, c'est comme si tu travaillais un mois en moins.
Oui, mais ils te volent tellement.
Quoi ?
Ils te volent tellement.
Oui, d'accord. Faut pas dire ça. Je veux dire, si tu dis à des gens qui bossent 11 mois par an parce qu'ils ont un mois de congé, dorénavant vous en bosserez 10, je veux te dire qu'il y a
mais
quand
non,
même...
C'est pas ce que je dis, c'est pas ce que je dis non plus, mais... Les congés payés, c'est de ça qu'on parle. Hein. C'est quoi, 3 semaines que les gens ont
3 semaines minimum, voilà. Oui.
Mais c'est, j'ai envie de dire, c'est la moindre des choses que l'employeur peut faire quand t'as un boulot... quand t'as un boulot... C'est même pas ça que je voulais dire. C'est même pas que t'as un boulot de merde. C'est, t'es pas obligé de travailler 8 heures par jour toute la semaine... si c'est pour subvenir à ta personne ou à même à une comment dire à une échelle plus normale d'un groupe ou je sais pas moi. Tu vois ce que je veux dire ? Mais qu'on travaille lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, 8 heures par jour, ça veut dire 8 fois 5, 40.
Et 40 ans de ta vie.
Je veux dire, pour celui d'en haut ou celle d'en haut, tu n'as pas. Enfin, tu comprends bien que tu produis quelque chose. Et là, on ne rentre même pas dans le détail de qu'est-ce qu'on produit, tu vois. Je ne rentre même pas dans ce détail-là, mais tu donnes tout ton temps. C'est ça surtout que je veux dire. Tu donnes tout ton temps à ton boss là-haut, ou ta boss. Donc, tu comprends bien que si c'était simplement pour subvenir à tes besoins qui sont la base, manger, dormir, t'as pas besoin de travailler autant, quoi. C'est ça, je veux dire.
Non, mais oui, après, je sais pas où tu veux en venir, mais oui, on est dans une société de consommation.
Tu peux en venir, mais tu comprends. Non, ça veut dire que tu comprends pas ce que je veux dire.
Bah, peut-être que c'est ça que tu veux. C'est que t'es dans une société de consommation où, de fait, on n'imagine pas.
T'as plus de temps pour toi ?
Oui, je suis d'accord. Et je veux dire que même le temps pour toi, tu le passes à récupérer toute l'énergie, que ta force de travail, comme on dit en termes marxistes, c'est-à-dire toute l'énergie que tu as perdue dans ton boulot. Tu rentres esquinté, crevé, avec une charge mentale, souvent dans beaucoup de métiers. Moi, je suis très sensible pour le moment aux conditions de travail dans les maisons de repos, parce que ma maman est en maison de repos depuis 2 ans et demi. Et c'est infernal, quoi, les conditions dans lesquelles les femmes, parce que c'est 90% des femmes, travaillent là, avec une charge mentale et sans déconnexion. C'est-à-dire qu'elles sont appelables. Madame Machin, aujourd'hui, est-ce qu'il faut continuer à lui donner ça ? Est-ce que tu as fait ceci ? Il est 10 heures du soir.
Donc c'est le minimum d'avoir des vacances. Parce que tu fais comme si c'était... Waouh, tu te rends compte, notre employeur nous paye pour qu'on ne foute rien. Mais attends, combien de temps tu fous pas rien toute l'année ? Tu vois ce que je veux dire ?
Oui, je suis d'accord. Bon, mais attends, il faut qu'on sorte de là où on est. Et je suis quand même, je ne suis pas contre des réformes pour y conduire. L'histoire a été construite comme ça. Après.
C'est pourquoi je parle comme ça ? C'est parce que je me situe au-delà de l'industrie, avant l'industrie, avant les machines, avant que l'humain soit un rouage de cette machine. Je me situe avant, tu vois. Et avant, je pense, j'idéalise pas. Entends bien. Mais on était vachement... Il n'y avait pas quelqu'un au-dessus de vous qui vous malmenait à ce point-là, à partir des usines, quoi, tu vois.
Oui, c'est ça que je reste... On a fini. Je reste sur l'idée que... l'alternative à ça, c'est reconquérir la totalité de son temps et donc la liberté de produire, et elle passe par un salaire qui t'est garanti peu importe ce que tu fais, sauf à considérer qu'on peut vivre dans un monde sans argent, ce qui pour moi n'est pas forcément une bonne idée, parce que je trouve que l'argent, si elle n'est pas un moyen de produire de l'argent, l'argent est un moyen qui permet
de... Là, t'abordes un sujet de l'argent, là.
Mais il est aussi, parce que beaucoup disent, par rapport à ces propositions, disent oui, mais non, ce qui corrompt, c'est l'argent. Et donc, tant qu'on maintient l'idée que chacun a un salaire, c'est-à-dire plus un salaire qui t'est donné par un employeur, mais qui est socialisé et inconditionnel, on reste dans un système marchand, c'est-à-dire où on s'échange des choses à partir d'un étalon, d'un moyen, d'un médium qui est la pièce de monnaie, le billet, ou maintenant c'est par versement bancaire, enfin par mais c'est une autre question, mais moi je pense que en soi, avoir un système comme ça n'est pas négatif. Ce qui est négatif, c'est quand il est devenu lui-même un moyen de produire du profit, c'est-à-dire vendre de l'argent pour se faire de l'argent. Et ça, c'est un problème. Voilà. Mais on ne peut pas développer ça.
Non, mais de toute façon, on a tellement... des fois, c'était pas toujours très clair parce qu'on a abordé... On n'est pas rentré en profondeur, vraiment. Hein. On a à chaque fois abordé des choses. Mais voilà. Merci, Thierry.
Mais avec plaisir. Deuxième épisode.
Oui, c'est ça.